internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 19h sur Radio Aviva. La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous, ce soir le temps est au beau fixe dans l'Hérault. On note 22 degrés à Lunel et 23 à Saint-André-de-Sangonis. On attend un pic de chaleur à 21 degrés durant la nuit à Montpellier. Demain vendredi, du beau temps en matinée, puis le ciel va se couvrir. Il fera 26 degrés le matin à Montagnac et 28 l'après-midi. Passez une très belle soirée sur Radio Aviva.
De suite, retrouvez l'actualité nationale et internationale de nos correspondants à Paris.
Bonjour Laurence.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. Il y a 58 ans, la ville de Jérusalem était réunifiée à l'issue de la guerre des Six Jours. Chaque année, l'État d'Israël célèbre cet anniversaire. C'est le Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem. Ce matin, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le Kotel, le mur des lamentations, pour la traditionnelle prière des Kohanim. Des milliers de policiers ont été déployés dans toute la ville pour assurer la sécurité du public. Ce matin, le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur le mont du Temple. Il était accompagné d'Itzrak Wasserlof, en charge du développement du Negev et de la Galilée au sein du gouvernement Netanyahou. Une visite condamnée un peu plus tard par la Jordanie. Sur le front de la guerre à Gaza, 3 roquettes ont été tirées ce matin depuis l'enclave palestinienne en direction d'Israël. Tsahal affirme avoir intercepté l'une d'entre elles. Les 2 autres sont tombées à l'intérieur du territoire palestinien. L'armée israélienne qui indique par ailleurs que le bombardement à l'aube d'une école de Gaza visait des terroristes de premier plan. Ils opéraient dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas et du djihad islamique installé dans une zone qui servait auparavant d'école, selon les termes d'un communiqué officiel. La défense civile palestinienne fait état d'au moins 20 personnes tuées dans cette frappe. Sur le terrain, Israël se prépare toujours à une offensive de grande envergure à Gaza, mais les États-Unis demandent à Benjamin Netanyahou de repousser ses opérations militaires. Selon plusieurs médias israéliens, les émissaires américains seraient actuellement en train de négocier directement avec le Hamas pour obtenir la fin des combats. La chaîne américaine Sky News indique, elle, que Donald Trump pourrait, dans les prochains jours, annoncer un cessez-le-feu à Gaza dans le cadre d'un accord qui comprendrait la libération des otages. On fait tout de suite le point sur ce dossier avec notre correspondante sur place, Cathy Bisraor.
Exactement, ce ne sont pas des informations officielles. Ce sont des informations qui sont publiées aussi bien par la presse américaine que par la presse israélienne depuis quelques heures. Et maintenant, il y a à peu près une heure, deux heures, il y a une information peut-être même plus inquiétante du point de vue, en tout cas, du gouvernement Netanyahou, qui est diffusée par plusieurs médias très sérieux en Israël, comme le Ynet et comme la chaîne 12, qui affirme que les États-Unis sont en train directement de parler avec le Hamas pour essayer d'envisager une fin, hein, une fin de la guerre, ce que ne veut pas, comme on le sait, le gouvernement israélien actuel. Les États-Unis tenteraient de voir si le Hamas accepterait une partie des exigences d'Israël, au moins une partie, à savoir une démilitarisation de la bande de Gaza, ce qui semble évidemment du point de vue israélien totalement impossible dans le contexte actuel et dans les positions actuelles du Hamas. Mais en tout cas, ce sont les informations qui sont diffusées. Les États-Unis actuellement tentent, contrairement à l'avis du gouvernement israélien, d'arriver à la fin du conflit à Gaza.
Et justement, dans cette perspective, Israël continue à préparer cette offensive à Gaza.
Absolument, il y a là véritablement une contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, on voit que il y a ce que je viens de vous expliquer, véritablement des efforts américains qui vont dans une direction qui est opposée à la politique israélienne. Et d'un autre côté, on voit une préparation intensive, même on peut dire des opérations à l'intérieur de la bande de Gaza. Il y a une série d'incursions qui ont eu lieu ces derniers jours, des incursions même très importantes dans plusieurs zones de la bande de Gaza. Ce n'est pas encore l'opération d'offensive spectaculaire que avait expliqué, qu'avait promis entre guillemets le chef d'état-major, mais il y a déjà des offensives et on voit donc une préparation en fait de la officielle de l'armée israélienne pour aller encore beaucoup plus loin. Maintenant, ce qu'il faut dire, et c'est clair pour tous les dirigeants israéliens, Israël ne pourra pas lancer une opération d'envergure dans la bande de Gaza sans le soutien des Américains. Il s'agit véritablement d'un dilemme important. Et je crois qu'il faudra attendre à peu près quelques jours, peut-être même un peu plus, pour voir dans quelle direction iront ces opérations à Gaza et dans le contexte évidemment des relations qui sont tout de même beaucoup plus tendues que dans le passé entre Israël et les États-Unis.
Cathy Bisraor avec Elsa Pariente. À noter que Israël a rejeté ce matin le nouveau cadre proposé par l'Égypte pour parvenir à un accord sur les otages. C'est une capitulation face au Hamas, selon Jérusalem. Dans le même temps, le gouvernement israélien devrait approuver dans la journée la mobilisation de 450 000 réservistes d'ici le 31 août prochain. Les prises de position du nouveau chef du Shin Bet inquiètent les familles des otages encore détenus à Gaza. Le général David Zinni, récemment nommé par Benjamin Netanyahou, s'est prononcé en faveur d'une guerre éternelle. Dans une lettre, les familles indiquent que ses déclarations contre le retour des otages et pour la poursuite de la guerre les ont bouleversées. Elles appellent David Zinni à clarifier son engagement pour la libération des otages. Et l'ancien otage Omer Venkert, libéré en février dernier, a partagé les détails de sa captivité. Lors d'une conférence au barreau israélien, il a raconté les sévices qu'il a subis de la part du Hamas. Près de l'entrée de Rafah, j'étais affamé, maltraité et soumis à des tortures psychologiques. Ils risquaient ma vie pour leur plaisir. Le ravisseur a porté un spray antiparasite et il le vaporisait sur mon visage, me forçant à garder les yeux ouverts. Le témoignage de l'ancien otage Omer Venkert. Le chef de la nouvelle organisation humanitaire créée par les États-Unis pour distribuer de l'aide à Gaza a démissionné avec effet immédiat. Jack Wood a expliqué qu'il n'était pas possible, selon lui, de mettre en œuvre le plan de l'organisation pour aider Gaza tout en respectant strictement, a-t-il dit, les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. L'organisation dont le siège se situe à Genève a annoncé le 14 mai vouloir distribuer près de 300 millions de repas pour une période initiale de 90 jours. L'ONU et des ONG refusent de participer au travail de cette fondation qu'ils accusent de travailler avec Israël. La communauté internationale doit envisager de sanctionner Israël pour qu'il mette fin à la guerre à Gaza. Une déclaration du ministre espagnol des Affaires étrangères peu avant une réunion des pays européens et arabes qui s'est tenue hier à Madrid. José Manuel Albares a parlé d'une guerre qui n'a plus de but et évoqué la nécessité de faire rentrer l'aide humanitaire à Gaza de façon massive, sans entrave, de façon neutre, que ce ne soit pas Israël qui décide qui peut manger et qui ne peut pas. Fin de citation. Jean-Noël Barrot, quant à lui, doit rencontrer aujourd'hui en Arménie son homologue de l'autorité palestinienne. Selon le Quai d'Orsay, cette rencontre entre le chef de la diplomatie française et la ministre palestinienne des Affaires étrangères interviendra à un mois d'une conférence sur Gaza qui sera coprésidée par Paris et l'Arabie saoudite. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, convoqué par le ministère israélien des Affaires étrangères à la suite de propos tenus dans une interview, Yehiel Leiter avait accusé les opposants à Benjamin Netanyahou, qualifiés d'extrémistes de gauche, de chercher à renverser le gouvernement. Le diplomate israélien est en principe tenu de ne pas commenter la politique intérieure israélienne. L'Iran écarte toute possibilité de suspendre son enrichissement d'uranium afin de parvenir à un accord avec les États-Unis sur le nucléaire. Cette information est le fruit de l'imagination. Elle est totalement fausse, selon le porte-parole de la diplomatie iranienne. Hier, Donald Trump avait affirmé que les discussions en cours avec l'Iran sur son programme nucléaire étaient très très bonnes, précisant que des progrès réels et sérieux avaient été réalisés. Le président américain qui durcit par ailleurs le ton vis-à-vis du Kremlin. Donald Trump a déclaré hier que Vladimir Poutine était devenu complètement fou. J'ai toujours dit qu'il voulait toute l'Ukraine et s'il le fait, cela mènera à la chute de la Russie, a écrit le chef de la Maison-Blanche sur son réseau Truth Social. L'armée ukrainienne indique ce matin que la Russie a lancé la nuit dernière 355 drones en sa direction, un record depuis 2022. Emmanuel Macron est arrivé au Vietnam ce matin, première étape d'une tournée en Asie du Sud-Est depuis Hanoï. Il a fait une déclaration à la presse aux côtés de son homologue vietnamien, appelant à un ordre fondé sur le droit face aux grands déséquilibres mondiaux. On écoute le chef de l'État.
C'est bien une nouvelle page qui s'écrit entre nos deux pays et dans tous les domaines, économique, scientifique, technologique, industriel, militaire, stratégique, culturel, universitaire, une volonté d'écrire une page encore plus ambitieuse de la relation entre le Vietnam et la France, entre l'ASEAN et l'Union européenne. Et j'ai redit ici à Monsieur le Président notre volonté d'avancer sur chacun de ces sujets et au fond d'une vision commune de ce que doit être l'ordre international, la stabilité dans nos deux régions. Merci infiniment, Monsieur le Président, pour votre invitation, votre accueil à cette visite d'État et la très bonne discussion que nous avons eue.
Emmanuel Macron ce matin, son arrivée au Vietnam. Quelques milliers de personnes se sont rassemblées hier après-midi à Paris à l'appel du comité et du comité Palestine Sciences Po et de plusieurs organisations étudiantes et lycéennes. Ils entendaient dénoncer, je cite, l'urgence de la situation à Gaza. Les manifestants ont brandi des pancartes et scandé des slogans tels que Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi ou encore ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. La colère des agriculteurs alors que la loi sur la réintroduction de pesticides arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les premiers tracteurs sont arrivés ce matin aux abords du Palais Bourbon à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Enfin, la disparition de Marcel Ofuls, décédé samedi à l'âge de 97 ans. Maître du documentaire historique, il s'était fait connaître grâce à son film Le Chagrin et la Pitié sur la France de Vichy. Réalisé en 1971, cette chronique d'une ville française sous l'occupation avait été un succès en salle, mais interdite à la télévision pendant 10 ans. Né en Allemagne en 1927, dans une famille juive, Marcel Ofuls était devenu français en 1938, puis américain, après un nouvel exil en 1941, loin de la France collaborationniste. Selon sa famille, Marcel Ofuls travaillait ces derniers mois à un film quasi achevé sur la montée de l'extrême droite en Europe et aux États-Unis et sur le conflit israélo-palestinien.
C'était le journal de nos correspondants à Paris. Tout de suite, retour des programmes sur Radio Aviva.
Elle s'en fout, elle se balance. Radio Aviva, l'invité de la rédaction.
Je suis Claudie Faucon-Méjean, donc je suis vice-présidente à la culture pour la région Occitanie.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'importance de ce festival, déjà pour la culture occitane, mais aussi le rôle de la région justement pour pouvoir faire vivre ce genre de festival?
Ce festival est un festival extrêmement important pour la région, que nous soutenons fortement. D'abord parce que c'est un festival extrêmement populaire qui propose des temps de spectacle dans divers lieux, qui propose une diversité exceptionnelle d'artistes, de danseurs, et qui propose aussi et qui montre toutes les formes de danse aujourd'hui contemporaine. Donc oui, c'est un festival important pour la région, c'est pour ça que nous le soutenons fortement. Et puis c'est aussi pour nous un festival qui permet à la région de rayonner au national, voire à l'international, d'abord parce que nous accueillons des artistes internationaux, un rayonnement international, et c'est un festival qui est important au sein de la région, pour le rayonnement de la région et de la culture et de la vivacité de la culture régionale.
Et quelle est l'importance, notamment dans un contexte budgétaire, en tout cas pour la culture qui est très compliquée, quelle est l'importance de proposer ce genre d'événement avec des tarifications ouvertes et accessibles à tous pour permettre tout simplement une culture pour tous?
Exactement, c'est bien le sujet. C'est bien pour ça que nous accompagnons fortement ce festival. C'est pour permettre d'avoir des tarifs qui sont accessibles à tous, parce que moi, je suis la vice-présidente à la région, mais à la culture partout et pour tous.
Merci beaucoup.
Mourad Merzouki, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous aimez les défis, je crois. Vous nous avez initiés, vous nous avez fait évoluer avec le hip-hop jusqu'à la contemporaine, qui a toutes ses lettres de noblesse aussi, d'ailleurs. Alors, si je vous dis le 5 juillet, qu'est-ce que ça vous évoque?
Le 5 juillet, c'est un rendez-vous pas particulier, c'est des retrouvailles, et à la fois, ça va être un challenge, un défi artistique de réenchanter la place de la comédie avec le public de Montpellier.
Alors cette ville qui est devenue la ville de la danse, hein, Montpellier, grâce à Montpellier Danse, vous allez pouvoir faire participer, là, danser tous les Montpelliérains?
Alors c'est le challenge, l'idée effectivement c'est que le public de Montpellier, qui, on le sait, aime la danse et fidèle à la danse, et ben c'est de le rendre acteur, de le faire participer à l'aventure chorégraphique, le faire vivre par le corps finalement la danse.
Vous avez un peu le stress?
Écoutez, c'est quelque chose que j'aime faire depuis de nombreuses années. Là, le challenge, c'est effectivement de s'adresser à 8000, peut-être 10000 spectateurs, on verra. Mais le stress, il est de faire que chacun de personnes présentes vivent un joli moment, un moment de partage, un moment, un défi chorégraphique, un défi artistique. Et tout ça, ce sera porté avec l'ensemble de mes danseurs. On sera 22. Donc voilà, le challenge, c'est de faire en sorte qu'on vive un beau moment autour de la danse à l'image de ce grand festival de Montpellier.
En plus, la soirée est classique à Montpellier Danse, bien sûr, en dehors de la place de la comédie, bien sûr. Alors, pour les Montpelliérains, samedi 5 juillet, 19h, venez tous, quel que soit l'âge?
Quel que soit l'âge, effectivement. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir faire en sorte que le mouvement proposé, la danse proposée, puisse toucher tout le monde, vraiment tout le monde, des plus petits aux plus grands. Et encore une fois, le pari, c'est d'avoir ce que j'appelle le geste commun, le mouvement à l'unisson qui est d'une telle beauté, d'une telle force. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de toucher avec le public ce jour-là.
Le titre est très beau, Écho de rue. Hein, c'est vraiment ensemble.
C'est ça, c'est vraiment ensemble. Voilà, c'est un écho qui, j'espère, sera ressenti à travers la France et pourquoi pas à travers le monde. Parce que c'est vrai que c'est tellement rare de voir des moments comme ça avec autant de monde autour d'un mouvement commun.
Mourad Merzouki, on n'est pas très très inquiet. Je suis sûre que ça va très bien marcher et ça va être un Mondo Vision. Alors, pour les auditeurs de Radio Aviva, un message vis-à-vis de la danse contemporaine?
Alors, ce que je peux dire, c'est que la danse, aujourd'hui, a une place tellement, tellement importante. On est dans un monde où on est plus souvent derrière les écrans qu'avec l'autre. On communique à distance. Et la danse revient, nous rappelle l'essentiel d'être avec l'autre, de bouger avec l'autre. Donc, voilà, danser, regardez la danse, aimez la danse, parce que finalement, il nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire notre corps. Donc ne regardez pas la danse avec défiance, regardez la danse avec bonheur, avec simplicité.
Voilà. Retrouver son corps, c'est retrouver l'autre aussi.
Complètement, c'est exactement ça.
Merci beaucoup Mourad Merzouki, merci.
Radio Aviva, l'invité de la rédaction.
Body's aching, system overload. Temperatures rising, I'm about to explode. Watch me, I'm intoxicated, digging the show. It's got me hypnotized, everybody step aside. Still the night.
Vous présente le journal des sports sur Aviva. Le journal des sports, Sydney Bitton.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce jeudi sportif. On va faire le tour de l'actualité sportive avec Sydney Bitton. Bonjour Sydney.
Baptiste, bonjour amis sportifs. Bonjour, très heureux de vous retrouver.
Et on va commencer par le cyclisme, la visite du directeur du Tour de France dans la région Occitanie.
Ah ben tout à fait, Christian Prudhomme était l'invité du quotidien régional de Montpellier. Il a présenté à des abonnés, qui étaient assez nombreux, il a présenté le Tour de France 2025 en visite dans notre ville, qui passera pour la 16e étape Montpellier-Mont-Ventoux. Et il a évoqué tous les intérêts, tous les avantages et surtout l'aspect médiatique de cette discipline qui, dans le monde entier, nous parlons du Tour de France.
Et est-ce qu'on pourrait parler du critérium du Dauphiné ?
Eh bien, ça y est, la quatrième étape. Belle victoire du Belge Evan Poel, qui a remporté l'étape et il prend le maillot leader. Et oui, il a dominé Vosgegaard et Pogačar. Et il faut le voir, des surprises arrivent tous les ans et on attend avec impatience cette cinquième étape. Saint-Priest-Mâcon, avec deux cols, Tourmatin et Banchon, avec 183 km à la clé. Donc ce Tour du Dauphiné présente un intérêt également, car on prépare évidemment le Tour de France.
Volleyball, défaite de l'équipe de France au tournoi international Sydney.
Eh bien oui, tout à fait, l'équipe de France a perdu contre le Brésil 3-0. Et ce qui n'empêche pas que le mercato commence à avancer, le Montpellier Aérosport Club présente la signature d'un grand joueur international, Geoffroy Quentin, qui va rejoindre le Goff, qu'il a rencontré lors des Jeux Olympiques. Et n'oublions pas également le Brésil qui a coupé la route à l'Iran 3-0. Et nous attendons aujourd'hui deux matchs très intéressants, Allemagne-Canada et Slovénie-Cuba.
Allez, on met la ceinture automobile pour les 24 heures du Mans.
Alors, les 24 heures du Mans automobile endurance, avec un certain directeur sportif, Philippe Signaux. Eh oui, chez Alpine, qui fête ses 70 ans. Samedi et dimanche, rendez-vous pour le Grand Prix des 24 heures du Mans. Mémorable compétition. Et on attend les résultats en espérant qu'il fasse beau pour éviter d'avoir des pneus glissants.
Autorallye championnat de France.
Chez Alpine, Marie-Manu Guigou, multi-championne de France, pilote officielle de la firme Alpine. Bonne recrue, en espérant qu'il brille aussi bien qu'il l'a fait jusqu'à présent.
Football Mercato.
Alors nous avons au sein du Montpelliéro Julien Laporte, Yael Mwanga et Christophe Julien qui ont officialisé leur signature pour l'année prochaine. Donc on commence d'abord par la défense renforcée et attendons, espérons, la remontée en Ligue 1. Nantes a changé d'entraîneur et ils ont fait appel à Luis Castro.
Toujours sur les terrains de football, l'Euro Espoir hier soir.
Ah oui. Les Français n'ont pas brillé, ils ont été pris en difficulté, ils ont trouvé le Portugal en Slovénie et un match nul simplement, avec beaucoup d'absence. Mais que faire, c'est le sport, ça tourne, ça roule.
Et on va parler aussi un peu droit TV en football professionnel.
Alors bien sûr, Nicolas Thouvenot, c'est le patron de la société commerciale de la Ligue Nationale Professionnelle. Eh bien, il a annoncé que nous allons avoir certainement la propre chaîne en août de la Ligue Nationale Professionnelle. Donc ça veut dire que on aura moins de frais, on aura certainement des rentrées pour les abonnés et attendons avec impatience les modalités et les manières de voir les matchs dans l'avenir.
Direction les gymnases pour le handball, encore le mercato.
Tout à fait, tout à fait. Meilleur joueur a été annoncé, Thibaut Brier, 2024-2025, meilleur joueur de Nantes. Le mercato s'annonce à Montpellier également, mais les noms officiels et les visites médicales n'ont pas eu lieu encore, mais on nous annonce beaucoup de surprises pour avoir une équipe aussi performante et même plus performante que l'année passée. Donc attendons avec impatience le président et on verra ce qui nous attend.
Et pour terminer ce journal Sydney, on va parler de tir à l'arc.
Eh bien honneur au beau podium des Lunelloises Catherine Champlain et Céline Auger qui ont le titre de championne de France au tir à l'arc archer. Donc bravo mesdemoiselles, bonne chance et que ça continue. Amis sportifs, merci de nous avoir écoutés. Donc on vous donne rendez-vous à demain pour le programme du week-end. Merci Baptiste, à bientôt.
À bientôt, merci Sydney, au revoir.
Au revoir.
Hérosport vous présente l'invité sportif sur Aviva.
Amis sportifs, bonjour, nous voilà aujourd'hui à La Vérune. Eh oui, direction La Vérune, parce que des événements se sont passés et remporte 2 titres en salle. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et pour ce faire, nous avons Madame Fernandez qui aura le plaisir de nous éclairer sur cette journée. Madame Fernandez, tout d'abord et avant tout, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous dire comment avez-vous vécu ce week-end? Alors, tambourin féminin, eh bien, croyez-moi que après ces 2 victoires, vous allez tout nous dire.
Oui, ben écoutez, nous avons fait une saison qui s'est conclue donc par les finales de championnat et héros en salle. Donc nous avons participé aux finales de coupe, donc que nous avons remporté dans notre catégorie en H3.
Alors un doublé coupe et championnat.
Et championnat, oui.
Alors oui, on peut nommer quand même il y a Rosita.
Rosita.
Rosana
aussi.
Christelle. Anna.
Oui, Christelle, moi-même.
Et oui, vous-même, comment êtes-vous venue au tambourin, Madame Fernandez?
Je suis venue au tambourin, donc il y a longtemps que je joue au tambourin, ça fait 30 ans que je joue au tambourin. Donc j'ai commencé le tambourin par la connaissance de mon mari, en fait, qui joue depuis l'âge de 14 ans. Donc, quand je l'ai rencontré, je me suis mis aussi au tambourin. Et donc, on a contaminé un petit peu toute la famille, puisque j'ai mes enfants qui jouent au tambourin et mes belles-filles aussi.
Alors, n'oublions pas Anna également.
Anna aussi, oui, qui joue avec moi aussi depuis longtemps.
Alors, dites-nous un petit peu, quel plaisir vous retrouvez sur ces cours indoor et outdoor? Parce qu'il faut des qualités exceptionnelles pour jouer au tambourin, bien qu'on n'en parle pas beaucoup.
Voilà, c'est un sport qui, pour l'instant, n'est pas encore très développé. Enfin, il est développé, mais on ne parle pas beaucoup de notre sport.
Ben non,
fait.
Non, voilà. On n'en voit même pas à la télévision.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ben, y a beaucoup de plaisir déjà de jouer entre amis. Et aussi, on a l'esprit compétitif pour ceux qui font les compétitions. Mais le tambourin aussi se joue en loisir. Nous, on développe aussi le tambourin dans notre club en se faisant connaître à des gens qui, justement, habitent la région mais ne le connaissent pas forcément. Donc, on les a invités à venir participer à des journées découvertes afin qu'ils puissent pratiquer le sport aussi en loisir.
Et les dames et les demoiselles, vous n'êtes pas seules parce que vous avez l'équipe masculine également.
Voilà, bien sûr, on a aussi des hommes qui jouent au tambourin dans notre club. Et donc, on essaie aussi performant cette année. Donc, on a l'équipe de H2 qui s'est maintenue.
Et la H4 B, avec Antoine, Aria et Christophe, reste au pied du podium.
Du podium, voilà, c'est ça. Ils finissent vice-champions dans leur catégorie, en héros, en Coupe de l'Héros et en championnat.
Alors là, très modestement, vous passez à côté quand même des qualités physiques que demande un tambourinaille, quand même. Parce que lorsqu'on regarde les matchs de tambourin, il en faut des qualités. Il faut de la puissance des épaules, il faut des déplacements, il faut une vista extraordinaire quand même. Il faut vivre aussi avec l'adversaire. Parce que vous savez quand même qu'en face, il y aura un gaucher, 2 gauchers, 1 droitier. Mais c'est important tout cela.
Oui, c'est vrai qu'il faut aussi travailler son physique quand on participe au match. Donc, c'est vrai que nous devons travailler notre physique aussi pendant les intersaisons. Donc, pour ça, on fait confiance aussi à nos coachs. Nous avons plusieurs coachs qui nous suivent au sein du club. Donc, nous avons Guillaume et Fred Gomarin qui s'occupent de notre équipe féminine et aussi des jeunes.
Oui, vous avez nommé Tom également.
Tom, c'est un joueur. Oui,
Tom et Martin.
Oui, Tom et Martin, ça c'est nos recrues de cette année.
Okay.
Donc ils ont commencé le tambourin cette année. Donc ils se sont très bien adaptés au sport, qui leur plaît aussi énormément. Donc on va pouvoir aussi les retrouver sur les terrains cet été.
Et la qualité du tambourin, c'est que ça n'est pas très onéreux pour participer. Hein, la licence, qu'est-ce que ça peut demander?
Bon, nous, au sein du club, la licence extérieure coûte 120 euros.
Bon,
donc, c'est vrai que ce n'est pas très cher.
Ben non, c'est abordable.
Voilà, en plus, on fournit le tambourin, les balles. Donc, c'est un sport qui est abordable à peu près pour toutes les bourses.
Avez-vous beaucoup de concurrence au niveau des disciplines sur la Vérune? Il y a du football?
Oui, à la Vérune, il y a du football. Il y a beaucoup de sports qui se pratiquent à la Vérune. Donc, il y a du football, de la GRS, du twirling, du badminton, du tennis.
Donc, ces victoires, ces victoires vous amèneront certainement d'autres licences.
Ben, j'espère. J'espère bien parce que nous, on a un club, on est un nouveau club. On l'a créé en 2023. Donc, j'espère que... par l'organisation de ces finales qui sont passées dans notre village, on va pouvoir récupérer aussi d'autres licenciés. Et on est intervenu aussi cette année, notre club a proposé bénévolement des interventions au sein de l'école de la Vérune. Donc pour tout ça, pour permettre aux jeunes de la Vérune de découvrir le...
parrainage avec les écoles, quelle bonne idée.
Voilà, c'est ça.
Eh oui, quelle bonne idée, parce que pratiquer du tambourin dans une cour d'école, ça doit être magnifique.
Et en fait, on les faisait se déplacer parce qu'en fait, l'école est juste en face, le complexe sportif. Donc en fait, ils venaient nous rejoindre les lundis au complexe sportif, où nos 3-4 personnes là, qui sont agrémentées par l'éducation nationale, ont pu fournir des cours, nous proposons des cours tous les lundis.
Que nous réservez-vous pour ce week-end qui arrive?
Ben, ce week-end, on est un peu off. Donc,
On digère les médailles et les victoires.
Voilà, on fait la transition, là, parce qu'on va commencer maintenant les entraînements extérieurs.
Merci beaucoup, Madame Fernandez, pour votre éclairage. Bonne chance pour la suite du programme 2025. Et merci. J'espère qu'on se retrouvera.
Voilà, moi aussi, je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Gotta keep them separated. Separated.
Hey! Man, you're disrespecting me. Take them out.
You gotta keep them separated. Separated.
Hey, man, you're talking back to me. Drink them out.
You gotta keep them separated.
Thousand before, you always get us one of those, turning the score.
separated.
Hey, man, you're disrespecting me. Took him out.
Gotta keep them separated.
Hey, hey, been out of mind. If you're under 18, you won't be doing any time. Hey, hey, come on and play.
Réservez vos places pour une belle soirée festive le 17 juin au Jam à Montpellier. Tout en musique et en humour pour soutenir Radio Aviva. Participez à la tombola dotée de nombreux lots de prestige, dont deux billets d'avion aller-retour pour Palma. Au programme de la soirée, un concert de jazz par The International Jazz Quartet, composé de Eric Luther, David Cross, Eric Gilles et Arthur Fell. Le concert sera accompagné d'une démonstration de danse par une école de swing. Vous pourrez aussi assister à un stand-up de 5 artistes du Fridge Comedy Club, Amine, Aliénor, Gabriel Bourdon, Michael Kondo et Julie Brimby. Les billets sont en pré-vente à 22€ et seront à 25€ sur place dans la limite des places disponibles. Alors inscrivez-vous vite à la Tombola et à cette superbe soirée sur la page Hello Asso de Radio Aviva.
Les plastiques, histoire courte mais impact durable, comprendre et agir. Xavier Cousin sur Radio Aviva.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Aviva. Je suis aujourd'hui en compagnie de Xavier Cousin. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Vous êtes donc chercheur à l'INRAE, donc vous avez fait partie d'une délégation de scientifiques français à être parti donc en Corée du Sud dans le but de discuter donc de la pollution liée au plastique dans le monde. Et donc vous êtes ici pour expliquer à nos auditeurs donc en quoi ce matériau donc reste dangereux, donc que ce soit pour l'environnement ou pour la santé de tout un chacun. Dans une première partie d'émission donc, qui est déjà disponible sur notre site internet radio-avia.com, on a parlé, on a tout simplement défini ce qu'était le plastique et la généralité des problèmes qui en découlent, on va dire. Dans cette seconde partie d'émission, on pourrait dire qu'on va définir l'histoire du plastique, ses propriétés, son origine surtout.
Oui, c'est ça. Donc, merci. On avait effectivement dans la précédente émission discuté des différents types de plastique, polypropylène. On avait bien insisté sur le fait qu'il y avait plusieurs plastiques constitués par plusieurs, définis par les monomères qui les constituent, donc plusieurs polymères, polypropylène, polyéthylène, polystyrène, etc., etc. Le point commun de la très grande majorité de ces plastiques, c'est qu'ils sont constitués, c'est qu'ils sont fabriqués, pardon, à partir de matières premières extraites du pétrole. 99% des plastiques produits dans le monde sont issus du pétrole, donc il en reste 1%, un petit pourcent. C'est ce qu'on appelle les plastiques biosourcés. Donc biosourcés, ça veut simplement dire qu'on utilise de la matière première, en général d'origine végétale, pour produire des plastiques. Mais on peut très bien produire du polyéthylène avec à partir de végétaux. Mais ça restera du polyéthylène.
Et donc ça restera dangereux.
Donc ça aura exactement les mêmes caractéristiques qu'un polyéthylène.
Alors quel intérêt de vouloir biosourcé.
Ça permet de varier les sources. En fait, la seule chose qui change là, c'est l'origine du carbone. Au lieu d'être du pétrole, c'est du...
Donc ce serait seulement moins cher à produire alors.
Pas forcément moins cher, mais disons que si on réfléchit dans un contexte de raréfaction de la ressource pétrolière, ça peut être une alternative. Mais le problème, les problèmes dont on discutera un petit peu plus tard, qui sont liés aux caractéristiques des plastiques, restent entiers pour la plupart de ces plastiques. Un polyéthylène est un polyéthylène, quelle que soit la source, qu'il soit fabriqué à partir de pétrole ou qu'il soit biosourcé. Donc on dit pétrosourcé ou biosourcé. Ça, c'est une des caractéristiques d'un certain type de plastique. Après, il y a un autre type de plastique dont il nous faut définir, c'est ce qu'on appelle les plastiques biodégradables. Donc les plastiques biodégradables, comme leur nom l'indique, ils sont dégradables naturellement. Naturellement ne veut pas forcément dire dans l'environnement. Le plastique biodégradable le plus utilisé, c'est le PLA, pour acide polylactique. Il est typiquement non dégradable dans l'environnement. Vous le mettez dans la terre, il ne se dégradera pas. Vous le mettez dans votre compost, il ne se dégradera pas. Il lui faut des conditions extrêmement particulières, dans des composteurs industriels, pour qu'il soit dégradé, avec des conditions et des températures élevées, pour qu'il soit dégradé de façon correcte.
Alors, quand on lit donc sur les emballages, donc, ou alors sur les propriétés du plastique, c'est un plastique biodégradable. En fait, il l'est, oui, mais donc sur des conditions extrêmement précises. Donc, au final, il est pas vraiment biodégradable.
Alors, il y a certains plastiques, hein, de la famille des PHA, par exemple, les polyhydroxyalkanoates, qui eux sont biodégradables dans l'environnement. Mais ça représente une quantité infinitésimale des plastiques actuellement produits.
Parce que ce genre de plastique qu'on peut retrouver où, ça, ce genre de plastique qui est biodégradable?
Ben, ça peut servir, par exemple, pour faire des emballages. Ça peut servir. Alors, une des grosses sources, en particulier, d'entrée de plastique dans l'environnement, c'est les plastiques agricoles. Donc, on pourrait imaginer que des plastiques de ce type-là, biodégradables, puissent être utilisés pour cet usage-là. Je voudrais préciser un élément. On entend parfois parler de bioplastique. Je voudrais être très très clair sur ce point-là, c'est que ça n'existe pas, un bioplastique.
C'est-à-dire ?
Eh ben, un plastique, il est soit biosourcé, c'est-à-dire son carbone est d'origine végétale, par exemple, ou bactérienne, ou il est biodégradable. Il n'y a aucun rapport entre les deux. On peut avoir des plastiques biosourcés non biodégradables et des plastiques pétrosourcés qui sont biodégradables. Donc le terme bioplastique est un terme qui est souvent utilisé pour faire croire à des choses miraculeuses, mais ça ne veut en aucun cas dire que plastique est un terme qu'il ne faut vraiment pas utiliser parce qu'il ne correspond à rien.
Alors, est-ce qu'il existe un plastique entre guillemets éco-responsable ou alors un plastique vert entre guillemets?
Oui, celui qu'on n'utilise pas.
Donc en fait, au final, peu importe la manière dont on consomme du plastique, la manière dont on utilise du plastique, quoi qu'il arrive, ça va être donc une fracture dans l'environnement.
Oui, c'est ça. Et le problème, donc je vous ai parlé tout à l'heure du compost, je voudrais juste revenir là-dessus. Il y a certains plastiques qui sont dits compostables. Les éléments qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que les normes actuelles pour qui définissent des caractéristiques pour des plastiques compostables sont telles que finalement des fragments qui feraient moins de 5 mm, seraient considérés comme acceptables. Et on verra un petit peu plus tard que 5 mm, ça correspond au microplastique, et donc ça ne veut pas dire qu'on a une disparition complète. Un des problèmes associés à la notion de biodégradabilité, c'est qu'elle est souvent associée dans l'esprit des gens à la disparition du déchet, on en a déjà parlé. À partir du moment où on ne voit plus le déchet, on a l'impression qu'il a disparu. Mais en fait, il peut très bien y avoir énormément de fragments plastiques de très petite taille.
De microplastiques
qui persistent dans l'environnement.
Merci à vous, en tout cas, Xavier Merci. Cousin, donc, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes chercheur et donc scientifique à l'INRAE. Vous êtes ici pour nous expliquer à nous, ainsi que les auditeurs, donc, de définir le plastique et donc toutes les problématiques qui en découlent. Cette émission est à présent terminée. Je vous propose de l'écouter, elle, ainsi que tout ce qu'on a pu faire avant concernant justement cette problématique-là sur notre site internet radio-avire.com. À très vite sur le programme.
Les plastiques, histoire courte mais impact durable, comprendre et agir. Xavier Cousin sur Radio Aviva.
l'agenda, toutes les sorties et les loisirs dans l'Hérault.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements et les sorties à venir. Une conférence débat exceptionnelle est organisée à Montpellier pour soutenir l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal le lundi 16 juin. Détenu depuis le 16 novembre, cet homme humaniste de 80 ans, combattant de la liberté, a été condamné à 5 ans de prison en Algérie pour atteinte à l'intégrité et à la sûreté du territoire national. Cette conférence, présidée par M. Arnaud Benedetti, s'articulera d'abord sur l'homme, l'écrivain, son œuvre, sa situation actuelle et enfin la parole circulera autour des thèmes de la liberté d'expression, des droits fondamentaux et de la solidarité internationale. Mercredi 18 juin à 21h, cap au Social Bar pour le Festive Hall, un événement festif 100% étudiant qui mêle musique et cinéma dans une ambiance décontractée et pleine d'énergie. Que vous soyez cinéphile ou simplement à la recherche d'une bonne soirée entre amis, ce rendez-vous est fait pour vous. Laissez-vous porter par une programmation éclectique et dynamique pour célébrer la création sous toutes ses formes. Ne ratez pas le rendez-vous incontournable de la transformation numérique du secteur de la santé, MedTech IA 2025. Le mercredi 18 juin, au domaine de Verchamps à Castelnau-le-Lez, venez en apprendre plus sur l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé au travers de conférences et de tables rondes. Le prix du billet est de 40 euros. La programmation est à découvrir sur le site www.medtech-ia.com. Toujours le mercredi 18 juin à partir de 18h, rendez-vous à Soramps Comédie pour une soirée spéciale autour des 150 ans de l'opéra Carmen. Le musicologue Patrick Taïeb, accompagné de Jonathan Parisi, vous propose une rencontre passionnante à l'occasion de la sortie de son livre « Et Célestine créa Carmen », publié chez Actes Sud et Palazzetto Bruzane. Un moment riche pour les amoureux d'opéra, de musique et d'histoire. Réservez vos places pour une belle soirée festive au Jam de Montpellier. Tout en musique et en humour, participez à la tombola avec de nombreux prix, dont 2 billets d'avion aller-retour pour Palma. Au programme de la soirée, un concert de jazz avec The International Jazz Quartet. Vous pourrez aussi assister à un stand-up avec 5 artistes différents. Grâce à la participation de nos sponsors, Radio Aviva vous offre la soirée. C'est tout pour cet agenda. À bientôt sur Radio Aviva.
Radio Aviva, le Flash Info.
Bonsoir à tous. L'Inde en deuil après ce crash d'avion survenu au nord-ouest du pays, dans la ville d'Ahmedabad. L'appareil, un Boeing 787 de la compagnie Air India, devait rallier Londres, mais s'est écrasé quelques instants après le décollage, Loard Aurel.
Oui, selon le site spécialisé Flight Radar, le signal de l'avion a été perdu à 190 mètres d'altitude, moins d'une minute après son décollage. L'appareil, qui transportait 230 voyageurs et 12 membres d'équipage, a fini sa course sur une résidence pour médecins, faisant encore davantage de victimes. Un seul passager a survécu, selon les autorités indiennes, mais ce soir, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les corps des victimes, que ce soit des passagers ou des résidents du bâtiment percuté. Dans une prise de parole vidéo, le PDG d'Air India exprime son profond chagrin et reconnaît qu'il y a beaucoup de questions auxquelles il ne peut pas encore répondre pour expliquer ce drame.
Et pour tenter d'y voir plus clair, des enquêteurs britanniques et américains vont être envoyés en Inde. Le Premier ministre indien Narendra Modi parle d'une tragédie. Dans un message sur X, Emmanuel Macron adresse ses pensées aux proches des victimes. Une minute de silence respectée à midi dans les établissements scolaires, deux jours après le drame de Nogent en Haute-Marne. Cette surveillante de collège tuée par un élève à coups de couteau. Le parquet requiert la mise en examen de l'adolescent de 14 ans pour meurtre. Selon le procureur, le suspect ne présente aucun signe de trouble mental, mais semble fasciné par la violence. C'est une première en France. La majorité des Français en âge de voter a plus de 50 ans. C'est ce que nous apprend l'INSEE un an avant les élections municipales et deux ans avant la prochaine présidentielle. Les moins de 30 ans en âge de voter ne représentent plus que 17% des électeurs. Et puis le soulagement pour deux clubs français de Ligue 1 dans le contexte délicat des finances du football. Marseille et Metz passaient aujourd'hui devant la DNCG, le gendarme financier du foot. Les dirigeants marseillais et messins ont présenté leurs comptes en vue de la saison prochaine et n'ont pas été sanctionnés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente soirée.